Si vous avez voyagé quelquefois dans les montagnes, vous aurez peut-être vu ce qu'une fois j'ai rencontré. Parmi un entassement confus de roches amoncelées, au milieu d'un monde varié d'arbres et de verdure, se dressait un pic immense. Ce solitaire, noir et chauve, était trop visiblement le fils des profondes entrailles du globe. Nulle verdure ne l'égayait, nulle saison ne le changeait. L'oiseau s'y posait à peine comme si, en touchant la masse échappée du feu central, il eut craint de brûler ses ailes. Ce sombre témoin des tortures du monde intérieur semblait y rêver encore, sans faire la moindre attention à ce qui l'environnait, sans se laisser jamais distraire de sa mélancolie sauvage. Quelles furent donc les révolutions souterraines de la Terre? Quelles incalculables forces se combattirent dans son sein pour que cette masse soulevant les monts, perçant les rocs, fendant les bancs de marbre, jaillît jusqu'à la surface? Quelles convulsions, quelles tortures arrachèrent du fond du globe ce prodigieux soupir. Je m'assis et de mes yeux obscurcis des larmes, lentes, pénibles, commencèrent à s'exprimer une à une. La nature m'avait trop rappelé l'histoire. Ce chaos de mots entassés m'opprimait du même poids qui, pendant tout le Moyen-Âge, pesa sur le cœur de l'homme, et dans ce pic désolé que du fond de ses entrailles la terre lançait contre le ciel, je retrouvais le désespoir et le cri du genre humain. Que la justice ait porté 1000 ans sur le cœur cette montagne du dogme, qu'elle ait, dans cet écrasement, compté les heures, les jours, les années, les longues années, c'est là, pour celui qui sait, une source d'éternelles larmes. Celui qui, par l'histoire, partagea ce long supplice, n'en reviendra jamais bien. Quoi qu'il arrive, il sera triste. Le soleil, la joie du monde, ne lui donnera plus de la joie. Il a trop longtemps vécu dans le deuil et les ténèbres. Ce qui m'a percé le cœur, c'est cette longue résignation, cette douceur, cette patience, c'est l'effort que l'humanité fit pour aimer ce monde de haine et de malédiction sous lequel on l'accablait. Quand l'homme qui s'était démis de la liberté, défait de la justice comme d'un meuble inutile, pour se confier aveuglément aux mains de la grâce, la vie se concentrait sur un point imperceptible, les privilégiés, les élus et tout le reste perdu sur la terre et sous la terre, perdu pour l'éternité. Vous croiriez qu'il s'éleva de partout un hurlement de blasphème? Non. Il n'y eut qu'un gémissement. Et ces touchantes paroles, « S'il vous plaît que je sois damné, que votre volonté soit faite, ô Seigneur !» Et ils s'enveloppèrent, paisibles, soumis, résignés du linceul de damnation. Chose grave, chose digne de mémoire que la théologie n'eût prévue jamais. Elle enseignait que les damnés ne pouvaient rien que haïr. Mais ceux-ci aimaient encore. Ils s'exerçaient, ces damnés, à aimer les élus, leurs maîtres. Le prêtre, le Seigneur, ses enfants préférés du ciel, ne trouvèrent pendant des siècles que douceur, docilité, amour et confiance dans cet humble peuple. Il servit, souffrit en silence. Foulé, il remercia. Il ne pécha point contre ses lèvres, comme fit le saint homme Job. Qui le préserva de la mort? Une seule chose, il faut le dire, car anima, rafraîchit le patient dans ce long supplice. Cette étonnante douceur d'âme qu'il y conservait lui porta bonheur. De ce cœur percé mais si bon, s'échappa une vive source d'aimable et tendre fantaisie, un flot de religion populaire contre la sécheresse de l'autre. Arrosée de ses eaux fécondes, la légende fleurit et monta. Elle ombragea l'infortuné de ses compatissantes fleurs. Fleurs du sol natal, fleurs de la patrie qui couvrirent quelque peu et firent oublier parfois l'aride métaphysique byzantine et la théologie de la mort. La mort pourtant fut sous ses fleurs. Le patron, le bon saint du lieu, ne suffisait pas à défendre son protégé contre un dogme d'épouvante. Le diable attendait à peine que l'homme expirât pour le prendre. Il l'environnait vivant. Il était seigneur de ce monde. L'homme était sa chose et son fief. Il n'y paraissait que trop à l'ordre social du temps. Quelle tentation constante de désespoir et de doute. Que le sevrage d'ici-bas, avec toutes ses misères, fut le commencement, l'avant-goût de la damnation éternelle. D'abord, une vie de douleur, puis, pour consolation, l'enfer, damné d'avance. Pourquoi alors ces comédies du jugement qu'on joue au parvis des églises? N'y a-t-il pas barbarie à tenir dans la certitude, dans l'anxiété affreuse, toujours suspendue sur l'abîme, celui qui, avant de naître, est adjugé à l'abîme, lui est dû, lui appartient? Avant de naître, l'enfant, l'innocent, créé exprès pour l'enfer. Mais que dis-je, l'innocent? C'est là l'horreur du système. il n'y a plus d'innocence. Je ne sais point, mais j'affirme, hardiment, sans hésiter. Là fut l'insoluble nœud où s'arrêta l'âme humaine, où branla la patience. L'enfant damné, j'ai indiqué ailleurs cette plaie profonde, effroyable du cœur maternel. Je l'ai indiqué, et puis j'ai remis le voile. Celui qui la sonderait y trouverait beaucoup plus que les affres de la mort. C'est de là, croyez-le bien, que partit le premier soupir. De protestation ? Nullement. Et pourtant, à l'insu même du cœur d'où il s'échappa, il y avait un mais terrible de cet âme dans ce bas, dans ce douloureux soupir. Si bas mais si déchirant. L'homme qui l'entendit dans la nuit ne dormit plus cette nuit, ni bien d'autre. Et le matin, avant jour, il allait sur son sillon. Et alors, il trouvait là bien des choses changées. Il trouvait la vallée et la plaine de la bourg plus basse, beaucoup plus basse, profonde, comme un sépulcre. Et plus haute, plus sombre, plus lourde, les deux tours à l'horizon, sombre le clocher de l'église, sombre le donjon féodal. Et il commençait aussi à comprendre la voix des deux cloches. L'église sonnait, toujours, le donjon sonnait, jamais. Mais en même temps, une voix forte parla plus haut dans son cœur. Cette voix disait « Un jour !» Et c'était la voix de Dieu. « Un jour reviendra la justice. Laisse là ces vaines cloches qu'elles jasent avec le vent. Ne t'alarme pas de ton doute. Ce doute, c'est déjà de la foi. Crois, espère. Le droit à journée aura son avènement. Il viendra siéger, juger dans le dogme et dans le monde. Et ce jour du jugement s'appellera la révolution. »